Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. C'est en cherchant votre chemin que vous avez trouvé votre voie. Le point de départ d'une route où musicalement vous ne cessez jamais de prendre des virages. Bonjour Vincent Niclot.
Bonjour Jacques.
Alors vous étiez venu il y a quelque temps dans ce studio de Sud Radio pour parler de tango. Là, il y a un album avec lequel vous revenez aux sources, Ténor. On va en parler longuement dans cette émission parce que c'est assez inattendu aujourd'hui, à l'heure du rap, d'avoir un album Ténor. Et je vous en remercie. Mais on va quand même évoquer quelques dates du passé pour aller vers cet album. Et la première que j'ai trouvée, alors vous la connaissez forcément, c'est le 10 novembre 2012. C'est la fête des armées à Moscou.
Oui, c'est un souvenir incroyable pour moi d'être invité dans cette grande manifestation qui est une fête nationale dans le pays, retransmise à la première chaîne russe, et puis de chanter devant toutes les têtes des armées. En l'occurrence, il y avait aussi Vladimir Poutine.
Rien que ça.
Oui, c'est ça. Medvedev. Enfin, il y avait vraiment tout ce qu'on peut faire de plus politique et armée dans le pays, et c'était impressionnant. D'un côté, sans cœur de l'armée rouge et sans musicien de l'autre, la scène du Kremlin, enfin, c'était très très impressionnant.
Et vous chantiez l'opéra rouge. Album qui a eu un succès fabuleux, mais ce qui était étonnant, c'est qu'au début, personne ne pensait que vous pourriez chanter. On a dit, c'est pas possible qu'une telle voix sorte de ce corps. On vous l'a dit, Vincent Niclot.
Oui, moi j'ai démarré de très loin, parce qu'en fait, j'étais même accusé d'être juste un cover, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est pas moi qui chante, et je fais semblant de chanter.
Oui.
Oui. Il y a eu ces bruits-là, et c'était compliqué, parce que, en fait, c'est vrai que j'ai pas vraiment le look, on va dire, du ténor classique.
Oui.
Pour les gens, ça a été compliqué de comprendre un peu le concept. Mais je le comprends. Hein.
Ouais, mais l'opéra vous a toujours fasciné, Vincent Niclot.
Oui, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup dans ma vie. Ça m'a donné ça a été comme un guide pour moi, en fait. J'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de chanter, j'avais envie de faire de la comédie musicale. Mais lorsque j'ai entendu une fois Pavarotti à la radio, j'ai été complètement bouleversé par cette voix qui m'a transpercé et c'était une révélation pour moi. J'ai dit, mais moi je rêverais de faire ça, et du coup j'ai travaillé en ce sens.
Voilà, on a répertorié à ce jour 6000 opéras, dont une centaine sont joués régulièrement, et le premier, ce serait du côté de Florence en Italie, à Mantoue, en 1598, un certain Jacopo Peri a écrit Daphné, considéré comme le premier opéra. Je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui, je le connais pas super bien, mais oui, bien sûr, je le connais de nom.
Voilà. Alors, vous étiez, paraît-il, Vincent Niclot, un enfant complexé par votre poids et que vous avez minci depuis, mais c'était un problème au départ. Vous aviez une tête de Playmobil, m'a-t-on dit.
Oui, bah oui, c'est ça. Non, c'est vrai que c'est maman qui me coupait les cheveux, donc on peut imaginer qu'elle suivait voilà, tout droit un peu la coupe, oui, la coupe du Playmobil, mais moi j'étais bien.
Oui, mais votre voix est arrivée très tard, vous avez mué très tard, je crois.
Oui, c'est vrai que j'avais une voix très, très aiguë au départ. Et puis après, lorsque j'ai mué, j'ai vu que j'avais une plus grande amplitude dans ma voix. Et je me suis dit que peut-être j'allais arriver à en faire quelque chose.
Voilà. Et résultat, vous auriez pu être un petit chanteur à la croix de bois. Mais vous avez chanté avec eux dans cet album Ténor. Un classique, c'est le concerto pour une voix. Alors, ce thème a été composé en Pologne pour un festival par Saint-Preux. Il est sorti ensuite en disque, 3 millions de disques vendus,
oui.
Avec Daniel Licari qui faisait ça un peu comme du jazz, la voix de jazz. Mais curieusement, il y a des paroles que je ne connaissais pas sur cet album.
C'est normal, parce qu'en fait, moi j'ai toujours adoré cette chanson, et c'est vrai qu'on a été en contact avec Saint-Preux, donc le compositeur, et il n'a jamais en fait donné le droit, même pour des rappeurs, il a eu beaucoup de demandes pour le rap, de sampler justement cet air qui rentre dans la tête, et il a toujours refusé, et lorsqu'on l'a contacté pour faire une nouvelle version avec des paroles, il a dit, faites-moi une proposition, je voudrais écouter. Je suis pas contre. Déjà, il aimait beaucoup mon travail, donc ça a aidé. Et puis, donc, je suis allé en studio, j'ai enregistré, j'ai écrit des paroles
En italien.
En italien, parce que j'ai essayé en français, mais ça ne marchait pas du tout. Et du coup, on lui a envoyé, il a adoré la maquette. Voilà,
vous vous rendez compte, il y a des centaines d'enregistrements de ce concerto. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui reste dans l'oreille, ce concerto pour une voix, Vincent Niclot?
Vous savez, si j'avais la recette, franchement, j'en ferais moi-même. Hein, donc, ouais. Non, c'est ce qu'on appelle un tube. C'est-à-dire qu'on l'entend une fois et on ne l'oublie pas. Et ça rentre dans les mémoires.
Et pourquoi les petits chanteurs à la croix de bois?
Parce que j'avais envie, justement, sur ce concerto, il me fallait une voix pure, il me fallait presque une voix, vous savez, angélique. Oui. Et j'avais eu la chance de travailler avec les petits chanteurs à la croix de bois. Je me suis dit, j'avais envie de faire un duo avec un enfant. Et il y a le petit Jesse qui est sorti du lot et qui a une voix phénoménale. D'ailleurs, ce que vous entendez, c'est une prise. Il nous a fait pleurer en studio. C'est la pureté absolue. Il faut savoir qu'il n'a pas mué encore. Et ce qui est terrible, en fait, dans ce genre de voix, c'est que peut-être que l'année prochaine, il sera plus capable de chanter comme ça. Donc, c'est vraiment un moment volé.
C'est arrivé à Jean-Philippe Meunier avec les choristes.
Exactement.
Où il n'a plus chanté ensuite.
Et oui, il peut être après dans l'ensemble des petits chanteurs à la croix de bois, qui est un ensemble formidable.
Oui. Alors, curieusement, votre carrière à l'opéra n'a pas démarré à Paris, mais à Avignon.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai pas vraiment de carrière à l'opéra. C'est-à-dire que moi, je suis un autodidacte et je suis allé dans les spectacles où on m'a engagé, en fait. Mais oui. J'avais pas envie de faire de l'opéra parce que je trouve que j'avais envie de garder, si vous voulez, cette liberté qu'on a de pouvoir chanter comme on veut, tenir les notes comme on veut. Vous savez, quand vous êtes à l'opéra, j'en ai fait un petit peu, on est sous la baguette du chef et on je fais pas ce qu'on veut.
Oui.
Et moi, j'ai jamais été vraiment, comment dire, je suis un peu intrépide. J'aime pas trop qu'on me dise comment chanter. J'avais envie de le faire à mon goût.
Oui, et vous l'avez fait. Et il y a eu d'autres exemples de sujets que vous avez choisis envers et contre tous. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 23 septembre 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Niclot.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vincent Niclot. Alors, on a commencé à parler d'opéra, de ténor, et le 23 septembre 2013, vous avez rendu hommage à une grande voix. Alors, c'est un album où il y a des chansons qui sont des classiques, plus une chanson originale.
Toi, tu vis pour elle. Depuis toujours, tu vis pour elle.
Louis, chanson dédiée à Louis Mariano.
Écrit par Jacques Vénérouzo.
Voilà, et un hommage inattendu parce que Louis Mariano, bon, à part les marianistes qui sont purs et durs, ben on a du mal à l'entendre aujourd'hui. Plus personne n'en veut apparemment.
Vous savez, il y a des artistes un peu comme ça qui ont une carrière incroyable et puis une fois qu'ils sont disparus, on les oublie, ils tombent dans les oubliettes. Et je trouvais que c'était dommage que Louis Mariano en fasse partie. Vous savez, récemment, Nathalie Dessay a sorti un hommage à Nougaro, mais c'est pareil. Quel artiste ? Et tout d'un coup, il y a des artistes comme ça dont on ne parle presque plus, on les oublie. Et c'est bien qu'elle ait remis au goût du jour... Nougaro, et moi j'ai essayé de le faire avec Louis Mariano parce que pour moi c'est une voix exceptionnelle.
Oui, et ça a marché puisque des gens et des jeunes ont découvert Mariano grâce à vous, avec notamment une opérette qui avait été un triomphe à son époque.
La belle de Cadix me fane la main, tic-a-tic-a-tic, aïe-aïe-aïe.
Ça c'est la version originale par Mariano. Vous vous rendez compte que cette opérette, La belle de Cadix, a été montée pour une semaine.
Je sais.
Au théâtre du Casino Montparnasse, qui est le théâtre Montparnasse, c'est que personne n'y croyait.
Et personne n'y croyait, et puis ça a duré des mois.
Des mois,
fait, oui.
Et il fallait choisir des titres de Mariano, c'était pas facile.
Non, j'ai beaucoup écouté, vous savez, il a un répertoire, c'est ce que j'ai aimé chez Mariano. C'est-à-dire qu'au départ, quand vous dites Mariano, alors oui, vous pensez à La Belle de Cadix, vous pensez au chanteur de Mexico, mais finalement, il a eu plus de 500 chansons à son répertoire, et ça va de Bésame Mucho, justement, que j'ai reprise aussi, au chanteur de Mexico. Donc c'est...
Parce que j'ai Bésame Mucho, vous le citez, et on l'a justement. Alors ça, c'est assez étonnant parce que Dalida a chanté Bésame Mucho, beaucoup de gens l'ont chanté. En fait, c'est une chanson espagnole, Embrasse-moi beaucoup, qui est un boléro, qui est devenue la chanson espagnole la plus reprise du XXe siècle et qui a été traduite en français par Francis Blanche. car c'est Francis Blanche qui a fait les paroles françaises de Bézabé Moucho.
D'accord.
Je ne sais pas si vous le saviez.
Non.
Et Francis Blanche avait une particularité, il écrivait des deux mains en même temps, donc il travaillait deux fois plus vite.
Ambidextre.
Exactement. Pourquoi cette chanson, pourquoi toutes ces Bézabé Moucho, ça vous a marqué que cette chanson?
Oui, quand j'ai regardé son répertoire, j'ai commencé à faire une sélection. Je vous ai dit, je partais de 500 titres, donc c'est beaucoup. Une présélection, Bézabé, j'ai écouté, il y a eu 400 000 versions de Bézabé Moucho. Je me suis dit, est-ce que je vais arriver à faire ma propre version? Parce que c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, de ne pas copier les autres et d'en faire une version unique. Et on est allé en studio, j'ai travaillé d'autres titres, j'y suis pas arrivé. Mais sur Bézabé, j'avais l'impression d'y arriver, j'ai bien fait d'ailleurs.
Oui, et alors curieusement, aujourd'hui, les grandes opérettes de Mariano, on les trouve en province, dans toute la France, et elles font un tabac. À Paris, personne n'en veut. Ça vous donne pas envie un jour de faire une opérette, Vincent Niclot? De jouer une opérette.
Vous avez des informations là-dessus?
Non, je ne sais pas.
Ah bon, d'accord. Bon. Non, mais c'est pas une question, on va dire, au hasard.
Voilà. Non, mais c'est mon sentiment.
Non, mais vous savez, vous avez dit à Paris, mais il y a eu le chanteur de Mexico qui a cartonné avec Rossi de Palma et
absolument.
Tout ça. Moi, je trouve qu'il y a un public pour ça. Et justement, il faudrait ressortir un grand spectacle comme ça et le mettre au goût du jour. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui attendent ça.
Je pense aussi, mais il faut trouver le théâtre. Et pour l'instant, la priorité est aux comédies musicales américaines. C'est d'autres choses.
C'est vrai, mais il y a des moyens de trouver des endroits pour le faire.
Alors, j'en reviens à cet album parce que y a quelqu'un qui a bien connu Mariano, qui est Nana Mouskouri, et dans cet album ténor, Vincent Niclot, elle chante avec vous, je chante avec toi, Liberté. Comment s'est créé ce duo, Vincent Niclot?
Tout simplement, j'avais une grande admiration déjà pour Nana Mouskouri, pour sa carrière unique. Et j'ai eu la chance de chanter avec elle un duo pour les 90 ans de Lynn Renault à la télé.
Oui.
On s'est super bien entendu. Je suis tombé encore plus fan d'elle. Et du coup, elle me dit avec sa petite voix, ça serait bien qu'on fasse un duo un jour. Et j'ai dit, ben ok, on tape là, on a tapé. Et donc, j'ai pensé tout de suite à elle. Mais je ne pensais pas qu'elle allait partager ce bijou en fait, de son répertoire. Le Nabucco de Verdi parce que franchement c'est un de ses plus gros titres et c'est un honneur pour moi de le partager avec elle.
Oui, et un titre qui a failli ne jamais exister pour le grand public. En fait, Nabucco, c'est l'opéra préféré de son père. Elle décide un jour de l'enregistrer. Pierre Delanoë écrit les paroles qui sont « Je chante avec toi, Liberté », mais le directeur de la maison de disques, Louis Hazan, pour ne pas le citer, ne croit pas en cette chanson, et il sort un autre titre qui était « Qu'il est loin l'amour ». Et puis finalement, Nana Mouskouri fait un carpentier, et sans rien dire à personne, elle met au programme « Je chante avec toi, Liberté ». Le standard a explosé, la chanson est devenue mythique.
Comme quoi,
tout est possible.
Il faut y croire.
Alors, il y a aussi dans cet album un autre air de Verdi, qui est « La Donna est mobile ».
La Donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento e di pensiero, sempre una mobile, leggiadro.
Alors, pourquoi ce choix de cet opéra de Verdi?
Parce que vous savez, si on regarde bien, pour le grand public, il n'y a pas beaucoup d'airs d'opéra qui sont très très connus. Évidemment, si on enlève Carmen, mais pour les hommes, un air de ténor connu, la Donna est mobile, c'est, je pense, le plus connu. Vous parliez tout à l'heure de Mantoue, c'est le Duc de Mantoue, c'est Rigoletto, Verdi. C'est une chanson en plus légère, hein. La femme est comme une plume qui vole au vent, c'est-à-dire la femme est changeante. Voilà, c'est un air que tout le monde connaît. Et il n'y en a pas tant que ça. J'ai aussi repris Luce van Lestel, mais ça, c'est franchement, c'est un peu moins connu. C'est un standard, j'avais envie d'un grand standard d'opéra.
Comment vous les avez connus vous-même, tous ces airs, Vincent Niclot?
J'en ai un peu travaillé quand même.
Oui, mais même l'italien, vous l'avez appris
Je l'ai appris en chantant, l'italien. Je ne l'ai pas du tout, je ne l'ai pas appris à l'école. Je parle l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, malheureusement pas l'italien. Mais au final, à force de chanter en italien, car pour moi, ça reste quand même la langue de l'opéra, et même dans la pop, hein, j'aime beaucoup l'italien. C'est donc, à force de travailler des chansons, je me suis mis à comprendre et à pouvoir un petit peu parler, surtout l'écrire.
Et puis surtout connaître la vie de ses compositeurs. Verdi, par exemple, on ne sait pas toujours que l'entrée du conservatoire de Milan lui a été refusée quand il avait 18 ans.
Oui, mais enfin, ça, c'est pas le seul hein, à avoir
non.
été...
Un professeur a dit qu'il était médiocre.
Oui, ben voilà.
et le succès de Nabucco, on dit aussi que sont les mots liberté et patrie dans une Italie qui était en pleine révolution, en pleine revendication politique, qui sont à l'origine de ce succès. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce genre de choses, mais ça explique le succès de ce troisième opéra de Verdi.
Oui, je crois que ce qui explique ce succès, c'est aussi, parce que je vous dis, quand on sort d'un opéra, c'est très difficile de rechanter un air. Quand vous allez à un concert pop, par exemple, vous êtes en train de chanter un ou deux titres du concert, mais à l'opéra, c'est beaucoup plus difficile. Et cet air, en fait, il est assez facile à se mettre en tête. On n'a pas besoin d'être un chanteur, un grand chanteur, et on pente la donna e mobile. Voilà, ça rentre dans la tête, et c'est pour ça que ça en a fait un tube de l'opéra.
Oui, en même temps, l'opéra, pour certains qui vont dans les festivals, c'est un rituel, on est très sérieux, on est bien habillé. C'est réservé à une élite. Vous prenez un risque, c'est votre côté kamikaze, Vincent Niclot, de rendre l'opéra populaire.
Non, mais je crois que je n'ai pas à le rendre. L'opéra est très populaire. Mais sauf que je pense que l'opéra fait peur. Et je sais de quoi je parle, puisque j'en faisais partie de ces gens qui, avant de m'y intéresser, en avaient peur, parce que j'avais l'impression que j'y connaissais rien, que c'était réservé à une caste, à une élite, à une certaine couche de la population. Et c'est faux, c'est complètement faux, c'est super accessible. Il suffit juste d'écouter un petit peu, de faire un peu de recherche, et finalement, ça passe très très bien.
Oui, mais encore faut-il que quelqu'un prenne le risque, ce qui n'était pas évident.
Oui, j'ai pris un risque, mais vous savez, depuis que je prends des risques, ça, c'est plutôt pas mal pour moi. Alors
continuer.
Voilà, Opéra Rouge, c'était un risque, on était un ovni dans le paysage musical à l'époque. Mariano, tout le monde m'a dit que j'allais me prendre un mur. Voilà, avec Obispo, c'était un gros pari aussi, parce que j'allais carrément dans le côté extrême de la pop par rapport à mon répertoire. Et c'est pareil, le public était là. Vous voyez, Tango, c'était aussi un pari, on l'a réussi. Et là, j'espère que, en tout cas, Ténor, ça va plaire, ça part très très bien. On est content et apparemment les gens aiment bien quand je prends des risques.
Oui, et puis vous aimez les grandes voix. Je crois que vous avez des liens avec la Belgique par rapport à votre grand-mère et des voix comme Brel, Moran ou Lara Fabian qui sont belges vous ont beaucoup touché.
Beaucoup, beaucoup. La Belgique, oui. Mon grand-père était belge, donc. Mais je suis aussi, vous voyez, j'ai pas de racines canadiennes, mais par exemple, j'aime les voix. Donc dès qu'il y a une belle voix. Peu importe le pays, vous savez, j'ai fait un duo avec une Africaine parce que j'ai aimé Angélique Kidjo, parce qu'elle est française, mais d'origine africaine, mais parce que j'ai aimé sa voix, j'ai aimé ce qu'elle apportait. Et voilà quelqu'un qui a pris un risque aussi, puisqu'elle a repris un boléro à sa façon, c'était osé. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans la musique et d'essayer des choses. C'est ça qui en fait justement sa richesse.
Et la richesse, elle existe dans cet album dont on va reparler dans quelques instants, dont on a commencé à parler, à travers la date de sa sortie, le 22 novembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Niclot.
Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vincent Niclot, 22 novembre 2019, sortie de cet album Ténor dont on a commencé à parler. Comment est née l'idée au départ de cet album, Vincent Niclot ?
Tout simplement parce que, en fait, les deux derniers albums, je m'étais éloigné un petit peu de ce répertoire très classique. Et c'est vrai que le public qui me suit m'a souvent dit « Mais on adore ta voix de ténor, on adore ta voix de ténor. » Je suis toujours présenté comme un ténor. Et je me suis dit « Pourquoi pas faire un album ténor ?» Et j'ai donc commencé à y réfléchir. J'ai dit oui, je vais faire un album ténor, mais je vais pas faire que des reprises des standards d'opéra. J'ai envie aussi d'y mettre des choses comme je fais à chaque fois, montrer qu'on peut aussi s'amuser avec l'opéra. Et donc j'ai repris aussi. Alors il y a deux standards de l'opéra comme La Donna e mobile et Luce van le Stelle, mais il y a aussi des grands airs classiques comme le Lac des Cygnes ou la Sarabande de Handel où j'ai écrit des paroles dessus aussi. J'en ai fait des chansons. Voilà, c'est un mélange. Et puis, il y a 7 guests, comme vous l'avez rappelé. J'ai jamais eu autant de guests sur l'album parce que au final, il y en a, ça s'est fait naturellement, et d'autres que je suis allé chercher. Ce qui en fait finalement un album super riche et très divers. Et oui, moi je me suis éclaté à le faire.
Alors justement, les guests, la première sur cet album, c'est Laetitia Millot avec Loin d'ici. Camminando soli piccoli vedo giocare volti voci del passato che non ricordo. Pourquoi ce duo avec Laetitia Millot? C'est assez énergique parce que Laetitia Millot c'est la nouvelle star, c'est Plus belle la vie. Chanter avec vous c'est autre chose.
Oui, parce que j'avais envie aussi dans cet album de montrer que on peut avoir des grandes références du monde de l'opéra comme Placido Domingo avec lequel j'ai fait un duo dans cet album et aussi Sarah Brightman, oui. Mais il peut y avoir aussi donc une chanteuse africaine d'origine africaine comme Angélique. C'est pour montrer qu'on peut s'amuser, que c'est pas figé, que c'est on peut aller explorer. C'est ce que j'aime faire moi, des nouvelles choses et prendre des risques. Et Laetitia, quand j'ai entendu, j'avais envie de reprendre cette chanson donc Loin d'ici. J'avais besoin d'une voix fragile, une voix avec plein d'émotions et pas une chanteuse. Il fallait justement une comédienne, une actrice qui puisse amener justement toute cette émotion, cette fragilité. Et j'avais entendu dire que Laetitia, elle avait envie de chanter. J'ai fait la proposition, elle a accepté dans la demi-heure. Donc vraiment, ça s'est fait très vite. Elle a adoré la chanson, elle a dit voilà, est-ce que je serais capable ? Je lui ai dit, ça c'est pas ton problème. On s'est vu en studio, je l'ai dirigée, elle s'est abandonnée. Et la prise que vous entendez au début de la chanson, c'est la prise qu'on a gardée parce qu'elle était les larmes aux yeux. On la connaît pour ça, elle est à fleur de peau. Et ça se ressent dans le morceau.
Oui, alors vous parliez aussi d'Angélique Kidjo, qui est donc une chanteuse du Bénin, mais d'origine du Bénin, que le monde entier connaît. D'ailleurs, elle ne supporte pas qu'on parle de world music à son propos, parce qu'elle dit « je ne chante pas en anglais et en français, et alors ?» C'est-à-dire que c'est la musique du monde, c'est la musique tout court. Et avec elle, on écoute le classique des classiques, le boléro de Ravel. Le classique des classiques, récemment tombé dans le domaine public au grand désespoir des héritiers d'ailleurs. Pourquoi ce boléro de Ravel ? Pourquoi Long Long et pourquoi Angélique Kidjo ?
En fait, j'ai vu Angélique au Grand Échiquier. Oui. Elle faisait cette version Long Long du boléro de Ravel dans sa langue, le Mina. J'ai adoré. Et c'est une démarche de ma part. J'ai voulu contacter son équipe pour savoir si elle accepterait de chanter avec moi sur cet album ténor. Et elle a dit OK, pourquoi pas, mais je vois pas du tout ce que ça peut donner ta voix de ténor et ma voix. J'ai dit moi j'en avais pas l'idée non plus. J'ai dit je vais faire un essai en studio et je t'enverrai la maquette et tu me diras. J'ai fait donc la maquette, je lui ai envoyé. Elle a adoré. Elle m'a dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que j'accepte. La mauvaise c'est que tu dois chanter dans ma langue, le Mina. Ouais. J'ai dit, mais ça, avec grand plaisir. Et elle a adoré la version. Et moi, c'est un de mes titres préférés de l'album. Et c'est une grande rencontre, Angélique Kidjo, parce que c'est une voix unique.
Vous avez appris le Mina ?
Oui, j'ai appris le Mina. Mais vous savez, j'ai chanté aussi dans d'autres langues, ouais. un peu spéciales, des fois pour une fois, pour plusieurs chansons. C'était pas si difficile que ça, au final. Dans chaque langue, il y a une musicalité. Il suffit de la trouver.
Alors, le boléro de Ravel, on l'oublie, au départ, c'est une musique de ballet. C'est pas du tout un morceau de composition. C'est une danseuse russe de la belle époque, Ida Rubinstein, qui a commandé l'œuvre à Ravel. Et ensuite, à partir de ce ballet, il a fait c'est devenu un classique.
Oui.
Et dans la première version de Star Wars, avant que John Williams soit engagé, George Lucas voulait mettre le boléro de Ravel. Ah oui. Et la première projection de Star Wars, il y a le boléro de Ravel et pas du tout les musiques qu'on connaît.
Ah, je savais pas ça.
Ça, c'était
je suis fan de Star Wars, donc j'apprends une chose.
Voilà. Et il voulait faire comme Kubrick dans 2001, Odyssée de l'espace, en gros. Alors, il y a aussi, c'est plus étonnant, deux enfants prodiges de la musique, Camille et Julie Berthollet, qui sont avec vous dans cet album, avec la sarabande de Heldel. Ça, bon, on pense au film Barry Lyndon, bien entendu, à cette musique qui a fait la forte. L'album a été une des plus fortes ventes de l'année quand l'Orchestre Philharmonique de Londres l'a enregistré pour Barry Lyndon. Vous aviez vu le film, je suppose.
Oui, bien sûr.
Et cette musique de Handel vous touchait ?
Oui, cette musique, je l'ai toujours adorée. Et surtout, je cherchais, j'ai rencontré les sœurs Berthollet à une télé en Suisse. Et je trouve qu'elles représentent pour moi la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'enfin, on peut voir deux sœurs de 18 et 20 ans qui s'attaquent au classique. Leur monde, c'est le classique. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir... on peut être jeune et s'intéresser au classique. C'est ça qui m'a plu chez elles, dans une façon moderne d'aborder le répertoire. Et je devais trouver une chanson dans laquelle j'avais vraiment envie de faire un duo. Je dis bien un duo, même si on est trois. Parce que ce n'était pas un accompagnement. J'avais envie d'elles, c'était vraiment leur place. Elles jouent avec leurs instruments et moi je leur réponds en chanson. Et c'est ça. Et cette chanson, elle était bien conçue pour ça.
Encore une originalité parce que personne ne l'avait fait, ça, Vincent Niclot, avant vous.
Oui, mais bon, moi je sais pas, c'est des idées qui me viennent comme ça, je suis inspiré par les autres en fait. Moi je fais rien d'autre que d'aller dans mon imagination, mais l'imagination qui est provoquée par les autres artistes.
Voilà. Et Handel, ça fait partie de vos musiciens préférés, de vos compositeurs préférés?
Moyen.
Moyen. Mais c'est que c'est un grand musicien, mais en même temps, il n'aurait pas fait la fortune des journaux People d'aujourd'hui. Les musicologues ne savent rien de sa vie privée. On n'a jamais rien su. On sait qu'il aimait la bonne chair et le bon vin, mais rien de plus.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Alors, autre duo, parce qu'effectivement, cet album est riche en duo, c'est ce Sony avec Sarah Brightman et Vincent Niclot. Sarah Brightman qui a joué pendant 5 ans le Fantôme de l'Opéra à Londres. Fantôme de l'Opéra qui est immontable à Paris d'ailleurs parce qu'on n'a pas de scène assez grande. Comment est né ce duo, Vincent Niclot?
La petite histoire quand même, si j'ai le temps de raconter,
oui,
c'est mon musical préféré, le Fantôme de l'Opéra. J'ai failli le jouer à Mogador. D'ailleurs, j'avais passé les auditions pour ça et puis le théâtre a brûlé.
C'est le Fantôme.
Oui, c'est le Fantôme qui était là. Il n'était pas à Garnier, mais il était à Mogador. Et en fait, non, j'ai reçu un jour... Il faut raconter l'histoire aux auditeurs. C'est que, en fait, ce spectacle a été conçu sur mesure pour Sarah Brightman, oui, par Andrew Lloyd Webber. Et il a créé le rôle de Christine spécialement pour elle quand elle avait 16 ans. Et moi, j'ai toujours été fan de ce musical. Et donc, évidemment, de Sarah Brightman. Et un jour, j'ai été contacté par la grande Sarah Brightman, pour faire le premier single de son nouvel album international et partir en tournée dans le monde entier cette année, en fait. J'ai fait ça toute cette année, donc pour moi, c'était un cadeau incroyable parce qu'elle me revenait en boomerang. Et donc, tous les soirs, je chante le thème du Fantôme de l'Opéra avec elle sur scène. C'est juste incroyable dans le monde entier. Et voilà, donc, il est né de son fait, en fait, parce que moi, j'aurais jamais pensé, peut-être, faire ça avec elle, et c'est elle qui est venue à moi, c'est ça qui est formidable.
Et puis, Placido Domingo, on en a parlé, il est aussi présent. Et dans cette époque de Noël, ça tombe bien. Have yourself a merry little Christmas. Make the yuletide gay. From now on, the troubles will be miles away. L'un des plus grands traîneurs du monde, avec vous, Vincent Niclot. C'est un rêve.
Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce qu'en plus, là, pour le coup, j'ai reçu un coup de fil une fois et c'est lui qui voulait faire, qui m'a proposé de faire ce duo. Il avait envie de 109 pour son album de Noël. Et du coup, j'ai cru que c'était une blague, hein, honnêtement, au départ. Et c'est vrai que quand je regarde ma vie défiler depuis 7 ans, c'est vrai que c'est un rêve éveillé parce que je dis toujours, les plus grands, j'ai réussi à travailler quand même des immenses stars. Et souvent, c'est les plus cool en plus. C'est ça qui est génial.
Ça s'est passé à Paris ou ailleurs parce qu'il voyage tellement.
On a enregistré chacun de notre côté,
oui,
mais on a fait une télé en Angleterre et une télé en France. Et j'ai découvert quelqu'un vraiment de super sympa. Quoi. Vraiment, c'est fou parce que je le dis toujours, mais des Céline Dion, des Michel Legrand, des Charles Aznavour, enfin voilà, c'est des noms incroyables, ça fait un peu name dropping, mais en tout cas, c'est vrai, ça m'est arrivé dans ma vie et c'est les plus sympas.
Oui, et moi, je me souviens d'avoir interviewé à Vienne, Placido Domingo. Il était tranquille, mais on va aller à la pâtisserie. On a passé notre journée à la pâtisserie à boire des chocolats chauds pour l'interviewer.
Vous voyez, non, il est super sympa. Vraiment.
Alors, quand on écoute cet album, on se dit qu'un jour, vous pourriez chanter à l'opéra, finalement faire un concert avec ces chansons de ténor à l'opéra, Vincent Niclot.
On pourrait l'imaginer. C'est vrai que...
Ça vous toucherait
Oui, mais plutôt des morceaux, alors. Voilà, ça me plairait beaucoup, de juste proposer un panel un peu de ce qu'on peut faire, mais pas seulement des morceaux d'opéra, mais aussi des grands classiques.
Vous avez vécu ces soirées à l'Opéra Garnier avec la garde républicaine et les opéras classiques. Les premières, vous n'avez jamais vécu ça?
Non.
Ah ben, je peux vous dire que c'était quelque chose.
Moi, j'imagine.
Et ça se terminait toujours par un dîner au dernier étage avec Potel et Chabot, pour les citer. Et un jour, il y a eu un poisson pas frais, 150 personnes du tout Paris à l'hôpital, et Potel et Chabot est devenu mortel et pas chaud. Et ça n'a pas beaucoup plu. Alors maintenant, cet album est sorti. 2020, c'est encore une tournée. Qu'est-ce que c'est pour vous, Vincent Duclos ?
2020, en fait, je le racontais tout à l'heure, j'ai eu la chance de parcourir le monde entier cette année avec Sarah Brightman, qui m'a emmené aux États-Unis, au Mexique, enfin partout, au Japon. Là, on va partir encore en 2020, on va faire toute la Chine, l'Asie du Sud-Est. Donc, c'est une expérience incroyable pour moi. Ça m'a permis donc d'aller chanter dans de nombreux pays et ça m'a ouvert donc d'autres portes dans plein de pays dans le monde. Et donc, je vais me consacrer à ça en 2020. Voilà, je veux vraiment partir à l'international et du coup, je reviendrai en 2021 pour une tournée.
Eh bien, vous reviendrez en 2021 et vous reviendrez à Sud Radio, où comme vous nous parlons.
Enfin. Avec grand plaisir.
Merci Vincent Duclos. Je rappelle que cet album Ténor est sorti et qu'il y a vraiment de quoi toucher les oreilles et le cœur de celles et ceux qui nous écoutent. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.